assez blanc, juste un petit souci. Voilà. Il est un peu capricieux, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas dramatique. Je suis revenu là il y a quelques jours et j'étais aussi au Maroc. J'étais interpellé de voir aussi l'église du Maroc, voir aussi des chrétiens marocains, de voir aussi comment ils vivaient leur foi. Parce que beaucoup des gens qui ne sont pas marocains, parce qu'au Maroc, il est interdit pour les Marocains de se convertir au christianisme. J'ai interpellé de voir aussi la souffrance, aussi de voir beaucoup de chrétiens qui vivent d'une manière assez simple, aussi de voir aussi de réaliser à quel point en Suisse on a quand même un privilège de pouvoir vivre en Suisse, ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde. Ça m'a interpellé aussi de pouvoir étudier aussi, c'est un séminaire d'islamologie, donc j'ai pu étudier l'islam sur place, comprendre aussi un peu ce que croient les musulmans. Et ça m'interpellait aussi de dire, quel privilège on a de pouvoir connaître le Seigneur. Plus j'étudiais l'islam, et puis plus je réalisais le privilège que nous avons d'être chrétiens, d'avoir cette espérance, de pouvoir aussi nous réunir comme ce matin, de pouvoir célébrer Dieu, ce Dieu qui est proche, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui habite en nous. Juste un petit souci, je reviens. Je ne sais pas pourquoi, il me met un pied. Non, je sais pas. Je disais, ces musulmans n'ont pas cette relation avec un Dieu proche. Ils ont un Dieu qui est loin, un Dieu absent, un Dieu qui fait preuve de miséricorde. Mais ils n'ont pas ce Dieu d'amour que nous avons. Ils ont leurs prières, ils ont leurs 5 prières par jour, ils ont leur tradition. Ils n'ont pas cette relation que nous, on a. Et ça m'interpellait aussi dans ces moments d'être aussi plus difficiles. Je repensais aussi à notre communauté, de voir que dernièrement, nous avons eu plusieurs personnes qui ont été malades, nous avons des gens qui sont hospitalisés, nous avons aussi des gens dans notre communauté qui ont vécu le deuil. Dieu, mais quel réconfort on a de savoir que Dieu est avec nous, d'avoir cette espérance de la résurrection. Et je vais aussi en parler ce matin. Et le titre de ce message, c'est « Un trésor dans des vases d'argile ». Cette prédication est tirée de 2 Corinthiens, chapitre 4. Est-ce que sinon Sinon, c'est pas dramatique. Je te dis à chaque fois qu'il faut changer de slide. Est-ce que tu peux mettre le slide numéro 2, c'est celui avec la table? Exactement, c'est celui-là. Voilà. Ok. Ok, on va faire différemment. Je ne sais pas pourquoi. Si tu avais à mettre alors le slide 1, après je te dis juste un geste, c'est bizarre, mais... Ok, laisse-le deux, il va très très bien.
Très bien.
C'est pas... Peu importe. Hier, j'étais au Pléiade justement pour finir de préparer ce message. Et puis, je voulais juste prendre aussi un temps avec Dieu. Et puis, j'aime beaucoup cet endroit, pour ceux qui connaissent les Pléiades, c'est vers le chemin de l'ermite. Et j'aime bien cet endroit avec ces énormes arbres. D'un côté, ça me rappelle aussi cette nature qui nous dépasse, de voir que aussi le temps qui passe, ces arbres, je ne sais pas combien, une dizaine d'années, et puis ils seront toujours là, ils sont là depuis un moment, ils sont toujours là. Et puis après, si on met l'image d'après, si tu arrives à mettre l'image d'après avec la souche, exactement. Là, je vois ces souches, il y a beaucoup de souches, parce que vu que c'est une forêt protégée, il y a peu de débardage. Ils n'enlèvent pas les arbres, mais ils les laissent. Et on se dit, mais tous ces beaux arbres, aussi beaux soient-ils, aussi grands soient-ils, à un moment donné, ils vont pourrir, ils vont tomber. D'un côté, ça me rappelle aussi cette fragilité de la vie. Je me disais, mais c'est aussi le titre de ce message, un trésor de 10 vases d'argile. Nous sommes ces vases d'argile. Il y a aussi cette fragilité de dire, mais nous sommes un peu comme ces arbres, nous pouvons être imposants, mais un jour, on va aussi mourir, un jour, on va aussi disparaître. Nous ne sommes pas éternels. Je te laisse mettre le slide d'après. Et le texte que nous avons, je te laisse aussi la suivante. Le texte que nous avons là, on le trouve dans 2 Corinthiens. C'est aussi à la fin de la vie de Paul. Paul, il arrive à la fin de sa vie. Et ce texte, c'est un peu comme un testament de Paul. Dans 2 Corinthiens, si vous relisez 2 Corinthiens, vous verrez beaucoup de textes où Paul parle de sa vie. Il est vieillard, il arrive à la fin, il sait qu'il va bientôt mourir. Et là, dans ce chapitre 4, il parle de la réalité visible, mais il parle aussi d'une réalité invisible. Il parle de cette espérance qu'il a, qu'on verra, cette espérance qu'il a dans la résurrection. Je te laisse passer le slide. Alors, juste celui d'avant, pardon, c'est le message de Paul. Exactement. Et dans les premiers versets, il parle de cet évangile, il parle de cette prédication, de cette bonne nouvelle. Lui qui est ambassadeur que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. C'est cet évangile qui glorifie Jésus. Jésus qui est cette image de Dieu, ce Dieu rendu visible que nous pouvons voir. Il parle aussi de cette vérité qui est la parole de Dieu. Et son but, son intention, il le rappelle encore et encore, c'est d'annoncer ce message, de l'Évangile, ce message de Christ, sans en tordre le sens, de manière la plus juste possible. Il ne désire pas se mettre en avant, mais il désire donner toute la gloire à Jésus. Et dans le verset qu'on verra ici, c'est un verset qui est magnifique. Ah, mais là, mon cœur revit. Mon cœur revit, merci. Et là, dans ce verset 6, j'ai mis aussi en allemand, parce que je trouve en français, il est vraiment compliqué. Et je l'ai lu plusieurs fois, et il essaie de faire un résumé, ça s'imbrique comme un puzzle. Il dit « en effet ». Donc c'est après qu'il explique qu'il veut vraiment annoncer l'évangile pour que toute la gloire revienne à Jésus. Il dit « en effet, le même Dieu qui... un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé de nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus. » Je ne sais pas si en allemand c'est un peu plus clair, mais je trouve qu'en français c'est assez compliqué parce que Dieu a brillé dans nos cœurs, ok, donc le même Dieu qui a dit que la lumière soit a brillé dans nos cœurs, ça c'est bon. Mais il a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus. je pense qu'on pourrait encore s'attarder, mais je ne vais pas le faire. Mais d'un côté, il parle de cette gloire, il parle de cette connaissance de la gloire de Dieu. Et je pense que Jésus, que Paul a contemplé, cette gloire de Dieu, il y a cette gloire qui rayonne du visage de Jésus. Dans le chapitre d'avant, il parle aussi de l'Esprit qui illuminait le visage de Moïse. Et pour Paul, ce message de l'Évangile, cette espérance, est glorieuse. Ça illumine notre vie, ça illuminait sa vie. Mais après, au verset suivant, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on retrouve le fameux habeur. Pour ceux qui étaient là pour la prédication de Ours. Mais ce trésor qui est la connaissance de Christ, qui est aussi cet évangile, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non pas notre propre capacité. Ce message, nous le portons de notre corps. Nous sommes ce vase d'argile. Paul, c'est intéressant, il ne dit pas « nous sommes des vases en or ». Il ne dit pas « nous sommes des vases en argent ». Ailleurs, il prend l'exemple des vases d'or, des vases d'argent. Donc, cette terminologie, nous la trouvons chez Paul. Mais là, il parle de vase d'argile. Je pense qu'il y a un vase d'argile, s'il tombe par terre, il se casse. Je pense qu'aussi, il y a un lien avec le fait que nous sommes de la terre. Nous sommes faits d'argile, de la glaise. Nous regardons dans Genèse, Dieu prend la terre et il façonne l'homme. Et je pense qu'il faut aussi un lien avec le fait que nous sommes terriens, issus de la terre. Et bien que nous sommes fragiles, nous sommes les dépositaires de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est glorieuse. Et ceci m'interpelle. Je dis, mais dans notre vie, malgré nos fragilités, j'ai même envie de dire, en raison de nos fragilités, nous pouvons mieux accueillir cette espérance, cette bonne nouvelle, ce Christ glorifié, lui qui est l'image du Dieu invisible. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ce soit la puissance de Dieu et non notre propre capacité qui soit mise en avant. Si on prend l'exemple d'un fil électrique, ce n'est pas le fil électrique qui a la puissance, mais c'est l'électricité qui passe à travers. Le fil électrique n'est que le conducteur, le moyen, le support qui permet à l'électricité d'aller du point A au point B. Et je trouve ce texte rassurant. Parce que Dieu ne cherche pas des super-héros. Quand on regarde l'histoire de l'Église, nous voyons beaucoup d'hommes, de femmes imparfaits. Je vais prendre un, deux exemples. Mais qui connaît Spurgeon, qui était pasteur évangéliste en Angleterre? C'est un grand pasteur qui a publié énormément de livres, de prédications, qui avait, je pense, on pourrait dire la première méga church en Europe. C'était l'église du Tabernacle à Londres, qui existe toujours, une capacité de 5000 places. Et prêchait plusieurs fois par dimanche, donc on peut dire 10, 15, 1000 environ, gens qui venaient l'écouter toutes les semaines, sans compter tout ce qu'il écrivait, qui était publié dans des prédications, dans des journaux et autres. Et ce grand prédicateur avait des grands problèmes de dépression. Et plusieurs mois par année, il allait en France, au sud de la France, à Menton, pour faire des cures dans des sanatoriums. Whitfield, ceux qui connaissent George Whitfield, grand évangéliste, si vous regardez sur les tableaux, comme je dirais, les tableaux, on reproduit toujours le bon côté des personnes. Et si vous regardez, il avait un gros strabisme. Et c'est toujours interpellant quand vous regardez les tableaux, il a toujours les yeux vraiment qui louchent. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être un des plus grands évangélistes avec Jonathan Edwards et d'autres aux États-Unis, qui a amené ce qu'on appelle le premier réveil, First Awakening. Il y en a eu d'autres, mais le premier, il y a eu un ministère impressionnant dans les nouvelles colonies. C'était pas un grand orateur. Enfin, si, c'était un grand orateur, mais c'était pas quelqu'un de populaire ou le Superman ou je sais pas quel grand personnage, le John Maxwell contemporain qui parle bien, qui présente bien. On pourrait prendre Moïse, on a toujours l'exemple biblique, mais tant d'autres personnes. Oui, Dieu a aussi utilisé, on peut dire, des super-héros. On regarde un Luther qui était docteur en théologie, qui était vraiment un grand érudit. Oui, Dieu l'utilisait. Ou un Calvin qui était aussi très méticuleux. Donc Dieu n'utilise pas que des gens qui ont des problèmes. Mais dans tous les cas, c'est toujours la puissance de Dieu qui se manifeste. Dieu n'a pas besoin de super-héros. Il a besoin de gens ordinaires qui se tiennent prêts. Au verset suivant, il dit que dans la vie, nous sommes accablés, mais jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Et Paul sait de quoi il parlait. Quand nous relisons les lettres de Paul, nous voyons que c'est un homme qui a aussi beaucoup souffert, qui était persécuté, qui était lapidé. Beaucoup aussi des gens qui l'ont accompagné ont aussi souffert. C'est un homme qui a souffert. Il parle des églises pour qui il vit encore les douleurs de l'enfantement. Et pourtant, ce vieillard, à la fin de sa vie, il dit... était accablé, mais jamais écrasé, désemparé, mais pas désespéré, persécuté, mais non abandonné. Nous lisons la fin des Actes, nous voyons qu'il a Rome, qu'il est en prison, et il dit « Tous m'ont abandonné, mais Jésus était avec moi. » Et même dans les moments difficiles de nos vies, nous pouvons se sentir persécuté, désemparé, accablé, terrassé. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous dans tous les moments de notre vie. Dieu permet que nous passions par toutes sortes d'épreuves. Et parfois, on ne comprend pas. Généralement, on ne comprend pas. Et je pense que ça fait partie aussi de cette condition humaine, de cette fragilité humaine. Nous réalisons que nous avons besoin de Dieu, que Dieu puisse aussi se glorifier à travers nos vies, à travers notre histoire, à travers notre vécu. Paul le dit aussi après, toutes ces épreuves nous sont permises afin que la vie de Jésus soit rendue visible dans nos vies. Dieu permet cette fragilité afin que cette vie de Jésus, cette puissance de Jésus soit visible dans nos vies et que les gens puissent voir Christ en nous. Nous devons redoubler de courage et de persévérance dans nos épreuves, tenir ferme et ne pas capituler et sombrer dans le désespoir. Dans nos vies, dans ma propre vie, jusqu'où je désespère, où je réalise mes limites, je me dis, Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et on peut tout savoir, on a tous ces pourquoi. Ça peut être la maladie, ça peut être qu'on réalise que l'âge à raison de notre corps ou à raison de notre énergie, de beaucoup de choses. Et on ne comprend pas, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et de réaliser que, ça, que nous sommes des vases d'argile. Et là arrive ce verset 14, qui est pour moi la clé, le cœur de ce message, de ce texte de Paul. Il parle de notre espérance. Il dit oui, à l'heure actuelle, nous sommes faibles, nous sommes comme ces vases d'argile, nous sommes fragiles, vulnérables. Mais un jour, le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec lui, pour que nous puissions paraître dans sa présence. Et Paul avait cette espérance de la résurrection. Qu'un jour, que oui, il était vieux, il savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il avait beaucoup de fragilité, et pourtant il avait cette espérance de la résurrection. Est-ce que cette espérance de la résurrection nous anime aussi aujourd'hui? Peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de hanche, j'ai des problèmes, je sais pas, de digestion, j'ai des problèmes dans la tête, j'ai des problèmes divers et variés. De garder espoir sur Dieu, de garder espoir sur Jésus en disant, oui, je suis imparfait, je suis humain. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être témoin du Christ, ça ne m'empêche pas de manifester Christ. Et je sais qu'un jour, lors de la résurrection, j'aurai un corps incorruptible. Et que Dieu fera toute chose nouvelle. Et il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont légères et passagères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'il nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Là, j'ai mis deux couleurs, j'espère qu'on les voit aussi. Des fois, c'est toujours compliqué de savoir comment ça ressort. Mais on voit que Paul fait un contraste entre les douleurs, les difficultés qui sont passagères, qui sont présentes, qui sont limitées dans le temps, par rapport à l'éternité. Il fait le lien entre ce qui est léger. Il ne dit pas que ça ne vaut rien. Il dit qu'elles sont légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'il nous réserve. Et moi, ce texte, à chaque fois, me touche. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des épreuves. Chacune d'entre nous avons, à différents moments de nos vies, à différentes proportions, des luttes, des combats, des moments difficiles où nous sommes éprouvés. Et Paul, dans ce verset, permet de prendre de la distance, nous dit, mais oui, c'est vrai, nous souffrons, c'est vrai, nous sommes limités, nous sommes ces vases d'argile. Mais courage, parce qu'un jour, ces détresses seront passagères et légères, en comparaison du poids insurpassable de gloire qui nous réserve. Et Paul avait cette perspective de l'éternité en tête. Il comparait ses douleurs, les problèmes présents à l'éternité. Il disait, mais dans l'éternité, qu'est-ce que ça sera? Toute proportion gardée, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme une femme qui met un enfant au monde. Il y a des douleurs intenses, c'est un moment extrêmement difficile. Une fois qu'on a l'enfant dans les bras et qu'on le voit grandir, on se dit, j'espère qu'on peut dire que ça en valait la peine. Et là, ça permet de, de nuancer aussi, peut-être de relativiser. Je pense que Paul prend aussi un peu, mais les amis, mais ne perdons pas courage. C'est pour ça qu'il dit pourquoi nous ne perdons pas courage. Et il rappelle que nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Paul est conscient, nous sommes humains. Quand on a mal, on a mal. On ne va pas dire, oh, ça ira mieux demain. Il y a des douleurs actuelles. Mais il dit, mais portons notre attention sur les réalités invisibles. Cette éternité, cette gloire à venir, cette espérance qui doit nous animer. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps. Mais les vins invisibles dureront éternellement. Et moi, ce texte me travaille. J'avais vraiment envie de vous communiquer ce texte comme un signe d'espérance. Peut-être aussi, ben voilà, dans notre église, on a des gens qui souffrent. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons aussi, en tant que famille, nous encourager mutuellement, nous encourager à dire, mais oui, je suis avec toi. Et de conserver aussi cette espérance aussi vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos familles. Encore une fois, Paul ne dit pas que ça vaut rien, il ne dit pas que c'est facile. À aucun moment il dit que c'est facile, il dit juste, mais levez les yeux. Regardez avec la perspective de l'éternité. Et nous sommes fragiles. Ça m'interpelle de voir combien de chrétiens sont morts pour des choses, je vais dire simples. Je connaissais un pasteur, un prédicateur que j'appréciais beaucoup en France, qui pour moi était vraiment un homme de Dieu, un homme rempli de sagesse, un enseignant de la Bible vraiment d'une grande qualité, qui est mort, je vais dire, bêtement du Covid. Il n'est pas mort persécuté, il n'est pas mort martyr, il est mort, voilà. Il a attrapé le Covid, il avait un certain âge, il ne s'en est jamais remis. Peut-être des gens qu'on connaît, des chrétiens, qu'on dit, ah ben voilà, ben. On voit que la fragilité de la vie, une maladie, un accident, quelque chose qui arrive, et puis Dieu reprend la vie. Un ami étudiant qui était à la HET, qui avait toute la vie devant lui, il venait de se marier, sa femme était tout juste enceinte. C'est encore pas officiel, mais voilà. C'était les premières semaines, premiers mois. Et il va faire de l'escalade avec un autre ami. D'un coup, il glisse. Je crois qu'il s'est tapé la tête. Il est mort. Il avait à peu près 25-27 ans. Marié, une épouse enceinte. Toute la vie devant lui. On peut se dire, mais Seigneur, pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi il n'a pas l'épaule, la jambe? Pourquoi il s'est tapé la tête? Pourquoi il a fait une mauvaise chute? Tu n'as pas envoyé des anges, Seigneur, pour le retourner? On pourrait aussi se dire, tant de fois dans nos vies, mais dans telle situation, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? La fragilité, peut-être aussi des fois la maladie. Seigneur, pourquoi tu as permis des douleurs? Seigneur, je t'ai suivi toute ma vie. Pourquoi j'ai des douleurs chroniques au dos, des douleurs, je ne sais pas, dans un membre. Le Seigneur n'apporte pas toutes les réponses, mais on a cette espérance que Dieu est avec nous et qu'un jour, toutes choses seront nouvelles. Nos souffrances ont du sens. De cette manière, nos souffrances permettent de glorifier Christ. Combien de chrétiens ou de compositeurs chrétiens ont écrit des magnifiques chants de louange après des moments difficiles dans leur vie. Beaucoup de gens, quand ils sont plus bas, maintenant, ils célèbrent Dieu. Combien de psaumes, on voit David qui est un peu au fond de sa caverne, d'un coup, il commence après à louer Dieu. Je pense que Dieu permet aussi la souffrance pour un peu briser aussi notre orgueil, pour nous rendre plus malléables, puisse travailler nous ne croyons pas être ces super-héros où, d'une certaine manière, on n'aurait plus besoin du Christ. Paul dit qu'il n'était pas un grand orateur. Ce n'était pas un homme qui avait beaucoup d'éloquence. Peut-être qu'il avait aussi des problèmes de yeux. Quand il dit « vous serez arraché les yeux », on pense qu'il était peut-être épileptique. Donc, ce n'était pas un super-héros. Ce n'était pas un super-apôtre. Il le dit aussi dans la lettre aux Corinthiens, par rapport à d'autres super-héros, de super-apôtres. Mais nos souffrances ont du sens, parce que Dieu nous travaille à travers elles. Cela contribue à ce que Christ soit glorifié. Il ne faut pas tomber de l'autre côté et puis faire l'apologie ou la souffrance, comme certains catholiques, on va commencer à se flageller, mais dans nos souffrances, apprenons aussi à glorifier Christ, à nous en remettre à Dieu. Et le dernier point, nous puissions avoir les yeux fixés sur le but éternel. Dire, ok Seigneur, un jour, toutes choses seront nouvelles. Paul parle de cette résurrection. Un jour, nos corps vont ressusciter, nous aurons un corps incorruptible. Comment sera notre corps? Je n'ai aucune idée. Est-ce que je ressemblerai à la même chose? J'en sais rien. Il y a cette espérance. Et Paul parle beaucoup, beaucoup de la résurrection, de cette espérance de la résurrection. La résurrection de Jésus est les prémices, l'avant-goût de notre résurrection à venir. Et un jour, nous serons auprès de Dieu pour l'éternité. Et comme nous le rappelle aussi ce magnifique texte de l'Apocalypse, toutes choses seront nouvelles. Il n'y aura plus de larmes, plus de misère, de tristesse, de deuil. Toutes choses seront nouvelles. Que cette espérance puisse nous permettre d'aller de l'avant dans notre vie de tous les jours. Amen. Oh, levez, qu'on puisse se lever pour la bénédiction. La bénédiction est tirée de Jean 20, verset 21. Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Seigneur, merci. Parce que tu nous donnes ta paix, tu dis que la paix soit avec nous, et comme le Père t'a envoyé, tu nous envoies durant cette semaine. Amen. Soyez remplis de paix et envoyés par Jésus.